Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, c'est votre magazine du soir, vous le savez, le rendez-vous quotidien de toute la scène française, sans exception, ça se passe ici et maintenant, en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Et ce soir, nos invités sont Nina Savary et Christian Olivier des Têtes Raides. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bing, bang, boom, explosion maximum pour ce 15e album des Têtes Raides. Cri d'urgence avec beaucoup d'humour et un son nouveau, on va en parler. Next Level Soap Opera, on est dans une autre dimension avec vous Nina Savary. Premier album après la danse et la comédie. 22h30, on retrouvera Marion Guilbeault pour un dossier streaming et partage des revenus avec Vincent Frère-Beau du label Tôt ou Tard. Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Christian Olivier, leader des Têtes Raides depuis 1984, année de création du groupe Les Red Ted, chanson rock, punk. Nina Savary, comédienne, danseuse, chanteuse. Première rencontre, j'imagine, entre vous deux, à moins que.
Complètement, ouais.
Première
c'est
rencontre.
Un plaisir.
Donc personne ne se connaît véritablement. Vous vous êtes googlisés les uns les autres.
Moi, j'ai googlisé un tout petit peu aujourd'hui, ouais.
D'accord. Et de votre côté, pas la peine. Voilà, c'est ça. Présentation de Têtes Raides, 15e album, Nina Savary, le premier album. Vous souvenez-vous du premier album?
De Têtes Raides?
Est-ce que vous en espériez 1989?
On espérait rien du tout, surtout. Enfin, on faisait de la musique, on espérait pas. Enfin, on espérait faire un album. En fait, cet album, il est né, on a participé à un tremplin.
Ouais.
Au pont d'Orly là dans la boîte de nuit là-haut là. Et bref on a gagné ce tremplin.
Oui.
Il y avait Dick Rivers dans le jury, c'est un petit détail mais voilà. Et bref dans ce tremplin on gagnait un petit 8 pistes portable à bande à l'époque. Et puis on est parti avec ça puis on s'est dit on va faire un album quoi. Et puis ensuite on a fait cet album donc sur un 8 pistes ensuite donc on a produit cet album, on a déjà commencé à travailler avec les chapelets sur les images, la pochette, etc.
Et vous avez été reçu partout, dans toutes les radios, dans toutes les télévisions.
Déjà, à l'époque, si, ouais. Non, mais c'était déjà, on a sorti 3000 exemplaires.
Ouais.
Mais c'était tout de suite un succès, mais on s'est pas posé de questions. On s'est pas posé la question, est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'au quoi ou qu'est-ce.
À quel moment vous êtes posé la question, est-ce qu'on va continuer? Parce que là, vous êtes au 15e album.
On continue à pas se la poser, en fait.
Ouais, vaut mieux, quoi.
De toute façon, faut avancer quand peut-être on va en reparler, mais Têtes Raides, il y a eu une pause pendant 5 ans là.
Ouais.
Il faut faire les projets quand on sent que on a l'envie, l'énergie, le désir de le faire, puisque un collectif aussi, il faut alimenter un collectif. Donc voilà, c'est le bon moment, faut y aller quand on a vraiment envie de le faire quoi.
C'est le bon moment aussi pour vous pour le premier album. C'est pas la même histoire hein, 1989. Les albums, c'était quelque chose qui se vendait à l'époque.
Il n'y avait pas de CD encore.
Il n'y avait pas de CD encore, vous vous souvenez, c'est dans le Moyen-Âge.
Il n'y a plus de CD presque maintenant. Oui, il en reste encore un peu.
Il n'y en avait pas à l'époque, il n'y en a presque plus aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est à peu près la même chose.
Oui, Nina Savary. C'est sûr que la façon de faire des disques a un petit peu changé, mais je partage tout à fait ce que dit Christian. Je crois que l'important, c'est d'en avoir envie, l'énergie, et c'est toujours le bon moment.
La dernière fois qu'on s'est vu, vous deviez fêter les 30 ans de l'anniversaire de Ginette. Vous connaissez Ginette, Nina Savary?
Bien sûr, oui.
Quand même, piqueur de rappel, en live.
Leur histoire, on s'en fout. On s'en fout. Oh! Il y a Ginette qui continue à tourner. Allez, Ginette! Allez, la belle!
Ça fait du bien d'entendre du live. Ça s'est passé dernièrement, justement, l'anniversaire de Ginette. Ouais. En fait, vous l'avez fait à l'Olympia. C'était début septembre.
Ouais, c'est ça. Juste un petit... Sur cette version de Ginette, il y a Jean Corti qui joue de l'accordéon, qui a été l'accordéoniste de Brel, qui a joué, qui a composé Les Vieux, Les Bourgeois. Mais effectivement, reprendre la scène aujourd'hui. Reprendre la scène aujourd'hui, c'est quelque chose de très émouvant.
Ouais.
Très, très émouvant c'est quelque chose que j'ai pas encore vécu, moi, en fait, d'avoir repris la scène, là, au niveau des sensations. Avec les gens, il y a quelque chose qui... comme si on redémarrait une nouvelle histoire. Il y a bien entendu tout ce qu'on a fait avant.
Bien entendu, oui, mais quand même.
Il y a quelque chose qui... on est en train de réécrire une histoire. C'est le début d'une nouvelle histoire.
Et ça se passe toujours pareil pour Ginette? C'est-à-dire qu'il y a toujours cette lampe de cuisine qui descend sur un long câble que vous balancez comme ça à travers la scène?
Ça, c'est Ginette, c'est elle qui décide, c'est plus moi. Là.
Ah, c'est plus...
vrai que c'est, mais c'est vrai que, bon, voilà, on a démarré, en tout cas, cette tournée par deux Olympias, là, le 5 et le 6, et de voir les gens chanter en finissant le concert dans le hall de l'Olympia et finir sur le boulevard en chantant. Voilà, pour moi, c'est voilà, c'est ça, ça reste un moment en tout cas magique, quoi.
C'est ce qu'on vous souhaite, Nina Savary. On va se retrouver dans quelques instants. On écoute d'abord tout de suite un titre de ce nouvel album qui s'appelle Bing Bang Boom. Le titre, c'est Je ne veux pas. Il a une histoire, ce titre, Christian Olivier.
Il a une histoire. Encore une fois, un petit détail, mais tout ça a été écrit avant le premier confinement.
Ouais, en 2019.
Donc c'est quelque chose qui était déjà écrit. Donc il fait partie en tout cas de cet album, pour moi c'est un des morceaux de l'album qui est dans le contenu en tout cas de ce qu'on raconte. Et de toute façon, je ne veux pas, oui, faut dire je ne veux pas. Je veux dire, pour vouloir quelque chose, faut aussi dire je ne veux pas, quoi.
La majorité des titres ont été écrits avant le confinement. Aujourd'hui, vous referiez un album, j'imagine que vous ne diriez pas les mêmes choses?
Approximativement si. Approximativement si, et je dirais même d'autres choses, j'ai envie de dire, quoi, plutôt.
Je ne veux pas être en plastique, je ne veux pas être hermétique, je ne veux pas de ce bonheur, je veux d'abord mourir de peur, je ne veux pas me lever le matin, je ne veux pas être certain, je ne veux pas qu'on me dise attends, je veux brûler tout ça maintenant.
Les axes, les boîtes.
Je ne veux pas, extrait de Bing Bang Boom, trois onomatopées en guise de titre pour ce 15e album. Je vous félicite, Christian Olivier.
Merci.
Vous étiez inspiré?
On essaye toujours de trouver un tout petit peu les choses, à la fois les choses fortes, enfin les choses profondes, et puis avec l'humour aussi, puisque l'humour...
Très présent dans l'album. Bing, ça correspond à quoi? Bang, ça correspond à quoi? Et boom, ça correspond à quoi?
À chaque mot, j'ai pas. Pour moi, c'est à la fois un arc-en-ciel, c'est à la fois une urgence, et puis
une révolution.
Ouais, une révolution, puis plein de poésie.
Précédent album, c'était en 2014. Ça s'appelait L'Éthérien. 7 ans ont passé. Vous avez fait plein de choses seul. 7 ans ont passé, mais vous avez bossé. 3 albums entre temps. Un spectacle avec Yolande Moreau et du graphisme aussi. Je lisais, c'est-à-dire.
Ah ben le graphisme, moi j'ai tout démarré en même temps en fait, hein, la musique, le graphisme, la littérature, tout ce qui, le théâtre, J'en parlais avec Nina tout à l'heure. Pour moi, cette période, ça a été, voilà, j'ai suivi tous les Chéreaux, tous les Brooks, tous les Nouchkin. Enfin, c'était, pour moi, c'était quelque chose, voilà. Donc, j'avance avec ce bloc qui est de l'image, du son, du texte. Tout ça, c'est, pour moi, c'est, ça a la même valeur, quelque part. Et j'essaye de, alors, les cases bougent, bien sûr. Il y a des cases où je vais être plus sur du bouquin, d'autres sur du spectacle, donc sur, j'ai fait aussi des expériences de danse, etc. Pour moi, tout m'intéresse parce que c'est le travail du corps. Et ensuite, on livre ça, quoi, avec.
Du travail de danse? Ça m'a échappé.
J'ai fait un spectacle de danse. Enfin, c'est pas moi, c'est une chorégraphe qui m'a fait bosser. Enfin, je suis pas un danseur. Hein,
on peut faire de la danse, on est un danseur.
J'ai bouché mon corps, ouais.
Tout à l'heure, vous disiez que vous en aviez parlé, que vous avez parlé théâtre avec Nina Savary, parce que Nina Savary, bien sûr, le nom de Savary, c'est Jérôme. Jérôme Savary, que je connaissais particulièrement, parce que moi, je vivais à Montpellier à l'époque, quand il dirigeait l'opéra. Donc, j'ai vu pas mal de ses spectacles. Vous avez peut-être vu même Nina en. Sur scène,
j'ai
en
pas
fait.
Eu l'occasion, non, non.
De voir, ça. On va y revenir tout à l'heure. Il a fallu donc vous réunir, les Têtes Raides, pour ce nouvel album. Grégoire au sax, Lulu à la batterie, Pierrot au trombone, Anne-Gaëlle toujours au violoncelle. C'est Edith qui a remplacé Scott, hein, Scott qui était avant au clavier. Mm-hmm. Serge est toujours à la guitare. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu des réticences pour se retrouver ou c'est toujours tout le monde va de l'allant?
Non, ça a été déjà le. Le déclic, ça a été les 30 ans de Ginette, quoi.
Oui, puisqu'on ça, il fallait le fêter.
On a fait 10 ans de Ginette, on a fait 20 ans de Ginette, donc fallait quand même faire un petit truc pour les 30 ans de Ginette, quoi.
Mais qu'est-ce qu'on fait de plus pour les 30 ans?
Donc j'aurais passé un coup de fil, puis j'ai dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on dit, on y va. Et donc il y avait, on en parlait tout à l'heure, il y avait l'envie, l'énergie, le désir de refaire de la musique ensemble et puis de retrouver le plateau et ce son, quoi.
Qu'est-ce qu'ils font les autres? Vous n'arrêtez pas de bosser, mais les autres aussi, qu'est-ce qu'ils font?
Ils font plein de choses.
Tous dans la musique ou dans d'autres?
Pas que dans la musique. Ils font plein de choses. Il y en a qui sont ambulanciers, il y en a qui sont travaillent dans les piscines, il y en a qui. Mais il y a plein de boulot. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Hein. Voilà.
Alors, quand j'ai écouté ce 15e album, j'ai pensé à Trio, le groupe que vous connaissez bien aussi. Eux, ils sont à 25 ans de carrière, vous un peu plus de 30 ans. Et pour la première fois, Trio a fait appel à un réalisateur et à un arrangeur, Régis Ceccarelli, un directeur artistique aussi, Bertrand Lamblot-Test, une pointure de la direction artistique. Et vous aussi, vous avez fait appel à une réalisatrice, peut-être une des rares femmes dans ce domaine-là, Edith Fonbuena, qui a travaillé pour Dao, Birkin, Higelin, Brigitte Fontaine. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher, Bachung, pour vous aussi en solo dans un précédent
tout
album.
À fait.
Qu'est-ce que vous allez être allé chercher de son côté pour cet album-là, pour le groupe?
Déjà, par rapport à Têtes Raides, c'est pas la première fois qu'on travaille avec Caral, hein, puisqu'il y a eu Jean Lamothe,
il y a plein qui se sont succédés.
Il y a eu du monde, il y a eu Sody, enfin bref, il y a eu. Moi, j'aime bien à la fois, on défend notre musique, mais et on est plutôt de la veine autoproduction, tout indépendant, etc. Mais moi, j'aime pas me fermer dans ma bulle. J'aime toujours travailler avec des gens, même si. Je vais toujours faire aboutir les projets où je veux les faire aboutir, mais j'aime toujours avoir le retour de quelqu'un, le travail, voilà. Donc là, effectivement, on a travaillé avec Edith. Moi, j'avais travaillé sur l'album On Off avec elle, et puis ça a été un bonheur de travail de.
Sur quoi vous êtes retrouvés tous les deux?
Je crois qu'on a une culture musicale, mais sur aussi qu'est-ce qu'on fait demain. À la fois ce qu'on a fait avant. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain? Parce que on est toujours sur des histoires un peu fermées, sur les gens, ils font de l'électro, ils font de la musique classique, ils font ça. Non, toutes les matières sont bonnes. Et donc là où on s'entend avec Edith, c'est moi j'adore les mélanges. Donc la musique acoustique avec des machines, avec des sons électroniques, etc. Je suis fan de ça. J'adore ça, ce mélange en tout cas de. Et donc, en tout cas, avec Têtes Raides, on a toujours travaillé sur cette. On s'en fout. Un morceau, il peut appeler des machines, pas de machines. C'est le morceau, c'est la chanson qui appelle ce qu'on doit faire à un endroit. On doit laisser le morceau aussi aller vers ce qu'il veut, entre la mélodie, le texte. Et avec Edith, effectivement, on s'est trouvé sur cette envie de proposition, quoi, de dire oui, tout est possible, tout est possible. Et on a cette relation tous les deux où. On est dans une cour d'école quand on fait de la musique ensemble, c'est le bonheur, c'est tout le temps la joie, quoi.
Il y a un titre qui clôt l'album, un titre qui n'est pas de vous, mais du poète Jean-Pierre Siméon, extrait.
Vous de grâce qui dormez dans un sommeil à triple tour, qui n'avez plus d'oreilles que pour votre sang captif, et dont les yeux absurdement ne voient que leurs paupières. Souvenez-vous des visiteurs de l'aube, les grands perdants du jeu de dupe des pouvoirs. Mes princes lumineux du chant et du vertige, un jour, rien qu'un jour, une heure seulement, levez-vous du tombeau et avec eux, dans une joie brutale, chevauchez les vents.
Qu'est-ce que raconte ce texte très lyrique de Siméon pour le mettre en musique à la fin de cet album ? Vous qui êtes particulièrement attentif à la dramaturgie.
Le texte de Siméon, il est dans l'album. En fait, c'est un petit peu le... pour moi, il conclut parfaitement l'album. C'est une phrase de lui, d'ailleurs. La poésie sauvera le monde, quoi. Voilà, pour moi, Siméon, c'est ça, c'est cette phrase... utopique, mais qui n'est pas qu'utopique. Et donc, moi, je suis adhérent à cette chose-là, bien sûr, c'est par la poésie de tous les jours, de la poésie populaire, la poésie de...
qu'on peut... Pensez vraiment qu'aujourd'hui, la poésie sauve le monde ?
Ah, pour l'instant, elle ne l'a pas encore sauvé, mais bon. C'est elle qui le maintient, en tout cas, ouais, ça c'est sûr. Ouais.
Les Tétrêtes sont connus pour leur positionnement politique, les messages antiracistes, antifachos. Il y a un cri d'urgence dans cet album, de liberté aussi, puisque c'est un des titres de cet album, la liberté. Liberté aujourd'hui, qui est un mot repris par la campagne de Marine Le Pen, vous l'avez vu, liberté
cool.
Chérie. Ouais. Un mot sur cette capitalisation du mot par l'extrême droite.
Je vais pas trop en parler, parce que j'aime pas trop faire de la publicité, moi, pour les gens qui font de la politique d'une manière générale, donc j'essaye même dans mes textes d'éviter de citer trop ces gens-là. Et
Oui, mais là, quand vous dites la liberté, en fait, on se dit, c'est pas possible, quoi. Le terme est déjà, est pris par l'autre. Justement,
par l'autre,
c'est bien de ne pas le lui laisser.
Je crois que Paul Éluard avait écrit un texte sur la liberté.
Sur la liberté.
Je veux dire, la liberté n'appartient à personne, déjà. Le mot liberté n'appartient à personne.
Non, mais dans une campagne politique, quand on voit qu'elle est reprise par l'extrême droite, c'est quand même assez inquiétant, non ?
C'est
pour ça, quand vous dites la poésie sauvera le monde, ça me fait toujours. Ça me laisse dubitatif.
Dubitatif. Ce qu'il faut, c'est redonner envie aux gens d'aller essayer d'écouter, d'entendre, de lire des choses qu'on n'a plus le temps parce qu'on est écrasé aujourd'hui par tout un tas de choses. Donc, il faut redonner envie et le désir et le plaisir d'aller prendre le temps d'écouter, regarder, lire des petites choses. Les gens, ils sont écrasés par tout un tas de choses aujourd'hui. La politique, bien sûr, tout
par
ça.
Par exemple, ce soir, un duel télévisé, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que ça vous inspire ? Sachant qu'il y a des millions de téléspectateurs qui regardent ça.
Ça m'inspire pas énormément grand-chose, c'est les jeux du cirque un petit peu, mais je dirais qu'aujourd'hui... je crois que la politique, alors je dis pas, voilà, il faut que ça existe, bien entendu, toutes ces choses-là. Mais je crois qu'avant toutes ces choses-là, il y a un besoin de retrouver. Déjà, on sort d'une période très compliquée, très très difficile qu'on a tous vécu. Il faut qu'on prenne le temps juste de déjà retrouver un peu ces petites sensations, ces choses d'être avec des gens, que tout ça, ça vaut très cher. Tout ça, c'est ça qui vaut cher. C'est ces petits bouts de vie qu'on Il faut se laisser le temps et réapprendre ces choses-là. C'est une période où il faut réapprendre tout ça.
Inès Savary, si vous n'étiez pas invitée ce soir sur France Inter, vous auriez regardé le duel Mélenchon-Éric Zemmour ?
Certainement pas, non.
Pour quelle raison ?
Parce que je regarde très peu la télé déjà, et puis je pense qu'on en entendra suffisamment parler dans les jours qui viennent.
Dans les jours qui viennent. Vous avez en parallèle un projet, c'est pour ça que je reste quand même sur la dimension politique, vous avez en parallèle un projet sur les poètes russes de la Révolution de 1917, Maïkovski, Mandelstam. C'est sous la forme d'un album, c'est sous la forme de quoi, en fait, Christian Olivier?
En fait, ça va être, y a plusieurs étapes. Ça va être un bouquin. Le titre de ce projet s'appelle La Révolution au cœur. Donc, il y a un bouquin qui va sortir. L'éditeur, c'est Attila, qui sort au mois d'octobre, là, entre le 15 et le 30 octobre. Ensuite, je vais sortir le son, la mise en musique de tout ce...
De leur texte. D'accord. Donc Siméon était une mise en jambe, en fait.
Ouais, et puis la mise en jambe, ça a été d'abord un texte qui est sorti la semaine dernière, puisque j'ai travaillé avec André Markovitch, qui est l'éditeur de tout Dostoïevski,
Renouvelé la langue russe que l'on croyait comme ça éternelle.
Qui m'a suivi sur ce projet, qui m'a obligé à traduire du russe alors que je parle pas le russe. Donc voilà, j'ai dû traduire un Mandelstam, un Essénin. Et donc on a sorti déjà les 12 de Bloch, là, un texte, un poème magnifique de Bloch sur la Révolution, qui est sorti aux éditions Mesure, qui est les éditions de Markovitch. Et donc il y a ce bouquin qui va sortir, La Révolution au cœur, au mois d'octobre. En février, je sors le son de toute cette saga. Enfin, j'étais passionné par tous ces gens-là. Et il y aura un spectacle qui va démarrer à l'automne prochain là-dessus, quoi.
Mais voilà, l'été très, Nina Savary, vous restez avec nous, on a rendez-vous avec Marion Guilbeault pour un dossier qui va vous intéresser, mais c'est sur le streaming et la répartition, mais ce sera après un passage par la Nouvelle-Orléans. Suivez le guide, c'est la femme.
Club.
sur France Inter.
22h29 dans Côté Club, on a rendez-vous tout de suite avec Marion Guilbeault pour un dossier brûlant qui vous concerne, Nina Savary, et vous aussi Christian Olivier, et toutes les têtes raides. Le streaming est devenu, on le sait, le mode de consommation majoritaire de la musique aujourd'hui, mais la répartition de ses revenus continue d'être une source de conflit, mais ça pourrait peut-être changer. Explication avec Vincent Frerbeau, c'est le patron du label Tôt ou Tard que vous connaissez. C'est le coup de fil de Marion Guilbeault.
Bonsoir Vincent Frerbeau.
Bonsoir Marion.
La plateforme allemande SoundCloud a mené une expérience fondée sur le User-Centric Service. Je crois que vous maîtrisez assez bien le sujet, que c'est même un de vos chevaux de bataille en tant que patron du label Tôt ou Tard. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement qu'est-ce que c'est ce User-Centric Service ?
Simplement, c'est pas le plus simple à expliquer, je vais quand même tenter de le faire. Actuellement, lorsqu'on est abonné à une plateforme de streaming, généralement, on paye un abonnement mensuel de 9,99€. Et dans cet abonnement, il y a toute une part qui revient aux ayants droit. Et quand on écoute 5 chansons par jour sur un mois, on s'imagine qu'on rémunère les 5 chansons qu'on écoute par jour au cours de ce mois. Et en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est le modèle user-centric auquel vous faites référence, ce serait ça, un paiement des œuvres qu'on écoute. Et en vérité, c'est différent. C'est calculé sur une part de marché de la somme des abonnements sur une période donnée, un mois, et sur un territoire. Donc en fait, pour l'imager simplement, vous écoutez Tom Waits une fois dans le mois un album en entier. Vous vous dites que vos 9,99 vont à Tom Waits, sauf que votre petite voisine qui a 12 ans écoute Aya Nakamura 99 fois dans le même mois avec le même montant d'abonnement. On prend les deux sommes d'abonnement qui donnent à peu près 20€. On donne 1% qui correspond à une écoute à Tom Waits et 99% à Aya Nakamura.
Donc c'est pas un système très très juste, ce système de répartition pour le moment.
Alors, c'est la façon dont c'est réparti qui, effectivement, n'encourage pas à produire autre chose que ce qui va être consommé massivement. Aujourd'hui, c'est très compliqué économiquement de continuer de produire tout un tas de styles musicaux qui ne trouvent pas encore leur économie dans le streaming. Il y a des tas de genres musicaux qui sont plus généralement consommés, j'allais dire écoutés par un public plus adulte qui n'est pas encore sur les plateformes de streaming ou qui est sur les plateformes de streaming mais ne consomme pas de façon compulsive la musique.
Est-ce que ça veut dire que les labels, par exemple, sont devenus des fabriques de musique pour les moins de 15 ans ?
Les labels aujourd'hui, les multinationales beaucoup, mais aussi certains indépendants, sont vraiment concentrés sur une production qui va leur permettre de trouver une économie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de se dire qu'on va trouver une économie avec, en produisant du jazz, en produisant de la musique classique, mais même plus largement en produisant de la chanson, tout simplement, en produisant du rock. Tout ce qui ne rentre pas dans la consommation des publics les plus jeunes ne trouve pas encore sa place économiquement dans le streaming.
Et à part ce user-centric service, il y a d'autres pistes. Les pouvoirs publics, par exemple, ils sont sur le coup, ils vous soutiennent, vous êtes tous d'accord sur le sujet, les labels, les majors ?
Non, on n'est absolument pas tous d'accord, parce que les intérêts sont divergents. Et les pouvoirs publics, malheureusement, ils ont évidemment un mot à dire sur tout, mais ils n'ont pas la main, parce que là, on parle de lois internationales, on parle de plateformes qui sont régies la plupart aux États-Unis, sauf Deezer qui est française, mais Deezer a fait la promotion du user-centric et a appelé autour de la table les pouvoirs publics, les multinationales, les indépendants pour essayer de les convaincre. Actuellement, c'est une idée qui fait son chemin un petit peu partout dans le monde, notamment principalement dans la communauté indépendante, mais c'est pas une idée qui va pouvoir se régler en un coup de législation en France. Ça marche pas comme ça. Ça marche avec une décision un petit peu mondiale qui devrait être prise par Spotify, Apple, Amazon ou Deezer.
Vous avez des moyens d'action, de pression sur eux ?
Pour que ça puisse se faire, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une pression des artistes, tout simplement, et que les artistes qui sont le plus consommés soient solidaires de ceux qui le sont le moins. Parce qu'en fait, là encore, il peut y avoir des intérêts divergents, mais si on se projette sur un peu l'intérêt général, on se dit quand même qu'un mode de répartition qui permettrait finalement à tous les styles musicaux d'exister équitablement serait quand même plus logique. Il y a quelques artistes qui vont avoir un peu à perdre, évidemment, si ça se rééquilibre, c'est au profit de l'un et au détriment de l'autre. Donc il y a forcément des perdants et des gagnants, sauf que les perdants sont des gros gagnants aujourd'hui, déjà, et qu'ils perdraient un peu en continuant de gagner beaucoup. Donc c'est cet éternel problème de la répartition de la valeur et de la richesse.
Eh oui, voilà, il faut une répartition plus socialiste dans le monde du streaming. Merci beaucoup, Vincent Frerbeau.
Mais je vous en prie.
Pour tous ces éclaircissements, on se donne rendez-vous très bientôt dans Côté Club pour fêter les 25 ans de votre label Tôt ou Tard.
Peut-être une réaction, Christian Olivier, des Têtes Raides, par rapport à ce dossier streaming, répartition des revenus, avec les inégalités que l'on vient d'entendre.
On va dire qu'on est toujours... Je crois que c'est pas quelque chose de nouveau. Peut-être que le système a changé. Les répartitions, c'est quand même... Enfin, je suis pas un spécialiste de ça, donc...
Non, mais vous voyez bien ce qui est en jeu, quand même.
Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est-à-dire qu'on peut écouter, en effet, les détraits, mais si on écoute 40 000 fois Aya Nakamura, c'est elle qui sera payée et pas vous.
Bien sûr. Bah, moi, je pense que... Enfin, je dis ça comme ça, à la volée, mais je pense qu'il faut toujours qu'il y ait, il faudrait qu'il y ait un pot qui soit... pour tout le monde, quoi. Je dirais que quand il y a une redevance qui rentre, il y a ça, puis il y a un pot commun qui est mis. Enfin, pour moi, c'est ça. Et ensuite, qui est réparti, justement, un peu partout, quoi.
Nina Savary, sur ce dossier, vous qui entrez dans ce milieu-là, même si on vous connaît, on connaît votre voix depuis plusieurs années dans d'autres projets, mais aujourd'hui, qui signe en solo.
C'est assez représentatif de la loi du marché en général. Enfin, je veux dire, c'est pas tellement étonnant à partir du moment où il y a une forme de monopole. Et puis, on voit bien à quel point les intermédiaires sont devenus importants aujourd'hui. C'est d'autant plus courageux de la part des labels indépendants, justement, de prendre des risques et de continuer à faire du développement d'artistes.
Premier album, Christian Olivier des Têtes Raides, c'était en 89. On est en 2021, plus de 30 ans plus tard. Vivre de la musique, ça se passe comment, par exemple, pour toute l'équipe des Têtes Raides qui ont du mal à passer à la télévision? Les Têtes Raides, ça passe pas si souvent que ça.
Ah bah, ça passe pas du tout.
À la radio, bon, France Inter, d'autres, mais pas énormément non plus. Pas l'impression. Privé de concert pendant le confinement. Donc j'imagine que... Comment ça se passe en fait? Est-ce qu'on peut vivre véritablement de sa musique?
De toute façon, on ne sait jamais si on va vivre de sa musique. Il y a des moments où on en vit un peu. Et puis il y a des moments où on n'en vit pas du tout. On a tous fait des boulots en parallèle. Moi j'ai la chance d'avoir d'autres activités aussi en parallèle. De faire du graphisme, de faire d'autres choses. Mais voilà, quand on se lance dans la musique... on ne sait pas si on va en vivre ou pas. De toute façon, il faut faire. À un moment donné, on ne peut pas se dire « je vais faire de la musique pour en vivre ». On fait de la musique et on en vit ou pas, j'ai envie de dire. Et puis les moments où on en vit... Alors il y a des moments où ça se passe bien, parce que tout d'un coup, il y a des gens qui viennent vous voir, on vend un peu de disques, etc. Mais c'est jamais quelque chose, c'est toujours quelque chose de précaire. Je veux dire, c'est jamais quelque chose d'acquis. Ensuite, il y a des périodes où d'un coup, les disques, ils se vendent un peu moins parce que le public il a moins aimé ou etc. Et donc, on vend plus de disques. Et donc, on va travailler, on va faire autre chose, on va gagner sa vie, quoi, autrement. Donc, pour moi, ça n'a jamais été. Je me suis jamais dit, de toute façon, je vivrai toujours de ma musique. Si j'en vis un peu, tant mieux. Ce qui m'empêchera pas de continuer à écrire, de faire des concerts. Et prendre plaisir à le faire. Mais si je gagne pas suffisamment avec la musique, je ferai autre chose. J'irai travailler. Je suis prêt à me lever le matin comme tout le monde pour aller sur le chantier, comme on dit, quoi.
On va retrouver Nina Savary et Christian Olivier, mais tout de suite c'est Gaël Faye qui chante Une histoire d'amour.
L'histoire d'amour. Tu sais ce qu'on dit, y'a pas d'amour, y'a que des preuves d'après le juge. Toi t'existais depuis toujours, moi je te cherchais comme une excuse. Médicaments sans ordonnance, évidemment t'es l'évidence. Télé guidé par tes pouvoirs, auprès de toi chaque jour est victoire. Je veux m'endormir à tes échos, éternité cœur en dépôt. Terrain miné sera notre histoire, oh, terminé de douter pour une fois. Kitoko na yo lokola, sanza na minzoto likolo. Yonde moteme pona ho, yonde na linga. Histoire d'amour, histoire d'amour, histoire d'amour. J'ai trébuché, je suis tombé. Tu m'as touché, j'ai succombé. Obsolescence déprogrammée. Je t'aime à la perpétuité. Même si le monde est contre nous, je serai fort prêt contre toi. Je me fous de la mort qui dénoue. On se dira oui comme autrefois. Elles poucavent les étoiles entre elles. On balançait ce que je voulais te dire. Toutes les belles choses que porte le ciel ne font qu'imiter ton sourire.
Na koko vanda kinyate, mokili ebongi yeba, bolingo yanga na yo sukaseliwa.
Histoire d'amour, histoire d'amour. Alléluia, Ave Maria, fameux jardin Marmalaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum vanilla. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie, oh c'est les lois loin d'Haïti. Alléluia, Ave Maria, fameux jardin Marmalaria, à toutes les saintes de Bahia, couleur café, parfum vanilla. Oh mi amor, oh mi le mani, vivre sans toi c'est mimer la vie, c'est les péchés pires, c'est l'hérésie, oh c'est les lois loin d'Haïti.
Sur France Inter.
Côté club, ce soir, c'est avec Christian Olivier, le leader des Tetraed, et Nina Savary qui signe son premier album, Next Level Soap Opera. On va y revenir. Nina Savary, comme son nom l'indique, fille de Jérôme Savary, le maestro du grand Magic Circus. Il y a eu beaucoup de mises en scène, plus que baroque, on va dire, quand j'habitais Montpellier, parce qu'il est travaillé à l'opéra. Je me souviens d'une mise en scène avec Alice Sapritch, mais c'est une autre histoire. Alors, ça revient dans tous les portraits qui vous sont consacrés. Vous avez débuté sur scène très tôt, 4-5 ans à la Scala de Milan. Rien d'étonnant quand on est une enfant de la balle et que son père est dans le spectacle. Vous avez joué de la comédie, vous avez dansé. À quel moment, Nina Savary, vous avez pris conscience que la musique, que le chant, pouvait être votre domaine ?
Bon, tout de suite, je crois. À la Scala, je jouais dans L'Histoire du soldat de Stravinsky.
De Stravinsky, oui.
Et je faisais un petit passage avec ma mère qui était enceinte de ma sœur Manon à l'époque. On dansait tous les deux dans un tableau assez angélique. Et je chantais, mais évidemment d'une voix d'enfant de 4 ans, donc personne ne m'entendait, mais je chantais déjà.
Et plus tard,
j'improvisais.
Et plus tard, vous avez eu une formation lyrique.
Oui, j'ai
parce que ça s'entend un peu dans l'album, justement. Ouais. Ouais.
Oui, il m'arrive aussi de chanter de l'opérette, des rôles de fantaisie à l'opéra.
Dernièrement, le dernier rôle d'opéra, c'était quoi pour vous ?
Eh ben, juste avant le confinement, on a repris La vie parisienne de Jérôme, à l'opéra de Metz et à l'opéra de Massy.
De Jérôme et de Jacques Offenbach.
Oui, enfin sa version.
Sa version, oui, parce que c'est vrai qu'elle emporte tout, sa version, généralement.
Bien sûr, c'est vrai que j'oublie de préciser qu'il s'agit d'Offenbach comme si tout le monde connaissait La vie parisienne, mais ça n'est pas forcément le cas. C'est le grand classique d'Offenbach, évidemment.
Avec quelle musique, quand même, vous vous êtes construit hors ce répertoire lyrique et classique, Nina Savary, pour aujourd'hui signer ce premier album et avoir eu d'autres aventures musicales, on va en parler.
Avec des influences très mélangées en fait, aussi bien jazz par mon père qui était fou de bebop, qui jouait de la trompette et de la batterie et qui avait toujours des musiciens sur scène avec lui, que par le tango, par la chanson française. Ma mère elle-même est chanteuse, elle a aussi signé quelques albums, notamment avec Rezvani.
Ouais.
Voilà, donc j'ai des influences à la fois classiques et en même temps j'ai été très marquée par la musique anglo-saxonne, et notamment le rock psychédélique et des chanteuses comme Joni Mitchell, Bobby Gentry, Mais cet album est un peu le fruit de tout ça, mais avant tout, je crois que c'est surtout comme une petite dramaturgie de comédie musicale, c'est-à-dire que c'est un peu comme un personnage un peu épique, comme ça, dont on suivrait les aventures dans
chaque
chanson.
À travers les titres de l'album.
Ouais.
Et vous, Christian Olivier, avec quelle musique vous vous êtes construit? Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous?
Moi, ça s'est construit avec tout un tas de choses. Hein. C'est un mélange, quoi. C'est un mélange de variété au départ.
Bien sûr, ce qu'on entend à la radio.
Voilà, ouais. De variété, puis ensuite, tout. Moi, j'ai beaucoup écouté de rock des années 50, 60. J'étais fan de ça, et puis ensuite tout le rock, Rolling Stone, etc. Et puis et toute la période des années 80, enfin 70-80, avec les Clash, avec tout ce qui est la culture punk, le ska, etc.
C'est ce qui vous a fait monter sur scène.
Entre autres.
Plusieurs aventures avant d'arriver à cet album Nina Savary, des aventures musicales, dont celle-ci en 2020, le groupe Institut.
J'aurais pu être ailleurs, j'aurais pu être actrice.
Nina Savary dans un groupe Institut. Il y en avait eu un autre aussi auparavant, mais aujourd'hui c'est le premier album en solo. On va écouter Par Million, un mot sur ce titre.
C'est un morceau qui a été composé par ma chère amie Armelle Pioline, qu'on a pu entendre dans Holden ou plus récemment dans Super Bravo, avec l'album Sentinelle qui est sorti l'année dernière.
Qu'on avait reçu ici, on les avait reçus justement pour cet album.
Ouais. Et c'est un morceau qui parle un peu du déracinement, de cette envie de toujours d'aller chercher ailleurs.
Et bien tout de suite, on y va.
Je saurais faire profil bas quand chanson que nous chanterons sans illusion. Parmi Dieu, sans illusion, dans les maisons à l'unisson, sans illusion.
Millions, un extrait de ce premier album Next Level Soap Opera, très produit. On y retrouve notamment Julien Gasque, entre autres. Il y a plein d'idées pour chaque titre. On vient de l'écouter. C'est comme s'il y avait plusieurs morceaux en une seule chanson. Nina Savary interprète. Pas envie d'écrire ?
Si, bien sûr. Je crois que venant du théâtre, j'ai toujours été habituée à aller beaucoup plus loin dans ce que je peux exprimer à travers les chansons ou les textes des autres.
Les autres, oui, mais à un moment donné, il va falloir passer à la première personne.
Peut-être un besoin de travestissement pour aborder des sujets justement qui sont les plus personnels et les plus proches de mon intimité. Oui, j'écris, oui, mais j'ai beaucoup de pudeur encore à signer vraiment...
À signer vraiment les textes, ouais, pour cet album. Qu'est-ce que vous leur avez donné comme direction, justement, pour que ce soit un album personnel, même s'il est écrit par d'autres?
Ben, c'est vrai que c'est un album solo, mais c'est quand même aussi avant tout une œuvre collective. Il y a énormément d'amis qui y ont participé. Ce sont bien sûr des artistes que j'admire énormément, comme Julien Gasque, Eddie Cramp, Laetitia Sadier qui a participé aussi, Armel Pioline ou Chris Cummings. Mais ce sont avant tout des amis très proches, c'est-à-dire des gens avec qui je partage une vraie intimité et avec qui j'ai déjà collaboré pour d'autres projets. Donc
ils vous connaissent très bien.
Ouais, et ce sont des chansons qu'on a façonnées ensemble et qui ont été vraiment écrites sur mesure pour cet album.
Sauf une, mais qui peut-être vous correspond, ce sont les mots d'une autre. Elle a été chantée par une autre. Elle a été chantée par Jeanne Moreau.
Parfois même j'ai provoqué avec un tel détachement. Aventures si compliquées que j'en oubliais mes amants. Je dois vous paraître cynique, pourtant mon cœur y fut blessé. J'ai malgré moi pris au tragique beaucoup d'adieux que j'ai souhaité. Je ne suis pas comme le mât, à la terre je suis attachée comme les racines de l'arbre. Accepterez-vous mon passé?
On dit que je ne suis pas sage, ça vous définit alors cette chanson chantée par Jeanne Moreau? Et je vois encore le lien avec Rezvani, puisque Jeanne Moreau a chanté beaucoup de textes de Rezvani. Rezvani qui a fait un album avec votre mère.
En effet, mais...
Donc il y a quelque chose de biographique qui se joue là-dedans.
C'est vrai, mais on sort vraiment de la chanteuse, de la Jeanne Moreau qu'on connaît. C'est quand même une pépite qui est assez méconnue, dont elle a signé le texte d'ailleurs, que je trouve très beau. Oui, c'est...
Mais c'est une leçon, ça, justement, qu'elle ait signé le texte, parce qu'elle a mis du temps. Elle a chanté les mots des autres pendant longtemps, Norge, elle a chanté Rezvani, et puis à un moment donné...
Tout à fait.
Elle est partie dans la composition et dans l'écriture. Mais c'est ce qu'on vous souhaite pour la suite, alors, Nina Savary. On va se quitter avec Arthur H. Samedi dernier, il était le héros de la Radio 2. C'est une émission à retrouver sur France Inter. Vous connaissez le principe. Un artiste aux commandes pour partager ses goûts musicaux. Samedi, ce sera au tour de Hubert Blanc-Francard, alias Boom Bass. Tout de suite, Arthur H. part, c'est l'avalanche dans Côté Club. L'avalanche.
même si le soleil te brûle et que l'air froid te glace. Tu défies l'espace, insolente insouciance. Pressant l'avalanche. Voilà qu'elle se rapproche, tendre tonnerre. L'avalanche accélère, rapide et légère.
Une avalanche qui emporte Côté Club avec elle, puisque Côté Club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Christian Olivier.
Avec plaisir.
Salut, il était traite pour nous. Bing, bang, boom, c'est le 15e album. Demain, vous serez au festival Paris Paradis à la Villette à Paris. Et la tournée se poursuit avec samedi, Rhys Orangis, le 30 à Brest, le 15 octobre à Clermont-Ferrand, le 9 février, retour à l'Olympia à Paris pour cet album et plein d'autres dates. Nina Savary, merci à vous.
Merci infiniment.
Premier album Next Level Soap Opera, c'est le premier album. Il sort vendredi avec un complice que vous vouliez nous présenter rapidement.
Mais oui, l'album a été produit et réalisé par mon homme et partenaire de musique et de vie, Emmanuel Mario, qui a amené énormément dans sa production, ses arrangements cosmiques et planants.
Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain. Demain, ce sera cosmique et planant. Côté clubbing avec le mix live de C7. À ses côtés, Julia Piala qui signe son premier roman musical et sociologique. Quand la ville s'éteint, c'est l'histoire d'un fils d'épicier qui se rêve en rappeur dans le 10e arrondissement à Paris. Merci à toute l'équipe du soir, à la réalisation Stéphane Le Guenec, technique Julien Dumont, Florian Dorémini, à la programmation bien sûr. Les trois mousquetaires, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic et Valentine Chedebois aux playlists. Côté club, on ferme, que la musique saute avec vous.